Ça ne me retira pas de la tête que le boulot, c'est une habitude.
Tu sais combien de PME ont déposé l'ambiance terrestre ?
Les métiers de demain, les parcours, et donc les chômeurs. Donc on a un problème terrible, c'est qu'aujourd'hui...
Monsieur le Président, je vous gratte le cul très fort avec une fourchette.
Ce sont des cotisations des salariés, c'est notre argent, c'est notre fric.
Bigger the lie, the more they believe.
Je suis content de m'être réveillé à l'heure. Je trouverai une autre solution.
Bienvenue au Pas Actualisé, aux démissionnaires, aux pas employés et bien sûr aux gilets jaunes. C'est Radio Radier en direct du grand froid de janvier 2019. On ne se réchauffera pas avec les incendies que nous promettent les logements insalubres dans lesquels on vit, mais on va tenter de s'apporter un petit peu de chaleur sonore pendant une heure sur Canal Sud 92.2. Et on est en compagnie de Marie-Yvonne, Jérémy, Lulu, Michel et Denise.
Et tout d'abord le sommaire d'aujourd'hui. Donc en premier, on va parler de la nouvelle loi, sobrement, n'est-ce pas, appelée la loi pour la liberté de choisir son avenir.
What else?
Que nous avons renommée, en toute bonne foi, la loi pour se faire radier en toute injustice. On écoutera pour cela le porte-parole de la section emploi de Sud Solidaire, Daniel Mémin, qui nous donnera son analyse des derniers décrets sur l'assurance chômage. Par la suite, on diffusera un petit florilège de prise de son sur les actions de la semaine dernière avec les GJ, à la Bourse du Travail, et pour l'appel à la grève générale et pour interpeller les syndicats, et une action dans les pôles emploi. En deuxième partie, on parlera de l'incendie qui s'est passé rue Bayard la semaine dernière, et du collectif des sinistrés qui s'est formé depuis une semaine. Et pour ça, on est en compagnie de Jérémy qui a perdu son logement à ce moment-là.
J'ai tout caillassé les bourgeois, j'ai tout payé les bars tabac. Et comme Benalla était là, j'ai tout pris la violence d'État. J'ai tout démonté tes panneaux, j'ai défoncé JC Déco. J'ai retourné tes belles macos que tu cachais dans ton ghetto. Fallait pas me gazer. J'ai kébo le tramway, t'as vu. Comme j'ai écouté les berrues, j'ai tout haché menu. J'ai brûlé ta Lamborghini. J'ai ouvert le chantier Vinci. J'ai tout bloqué l'économie, mille fois à la gendarmerie. Fallait pas me gazer, tu vois. Il est beau le. Attends, c'est pas tout à fait tout, j'ai tout récupéré les sous. Fallait pas me gazer, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand tu es là. Ah la 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 la.
Je vous encourage à chanter cette goguette chez vous aussi. Et tout de suite, on va parler de l'assurance chômage et de ce qui va changer avec la nouvelle loi sur l'assurance chômage, puisque l'Assemblée nationale a adopté définitivement la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel le 1er août 2018, à une large majorité d'ailleurs, hein, il y avait 137 voix pour contre 30 contre du coup. Et donc cette loi, elle a été promulguée le 5 septembre par notre cher président Monsieur Macron.
Macron, démission.
et donc cette loi, elle fait partie de la guerre éclair en fait du gouvernement contre les pauvres, les travailleurs et les chômeurs. Et elle est composée de plusieurs décrets. Et du coup, le 28 décembre dernier est paru le décret qui renforce le contrôle des chômeurs et qui élargit les conditions de leur radiation. Et à ce sujet-là, on a un entretien avec Daniel Mémin, qui est le porte-parole de Solidaire Emploi en Occitanie, donc du syndicat Solidaire Emploi en Occitanie, et qui va nous décrypter toutes ces nouvelles mesures.
Merci Daniel pour ce petit moment. On va parler ensemble de la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que peut-être pour commencer, tu pourrais te présenter et présenter la... justement cette réforme, cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui est en train de passer là par décret en ce moment.
Alors moi c'est Daniel Mémin, donc je suis porte-parole du syndicat Solidaire Sud Emploi, donc c'est le syndicat sud on va dire à Pôle Emploi, donc de la région Occitanie, c'est à ce titre-là que je m'exprime là aujourd'hui. Et pour la partie donc concernant cette loi de la liberté de choisir son avenir, alors déjà il faudrait dire liberté de choisir son avenir professionnel, puisque cette loi considère que le seul avenir qu'on a c'est de bosser, donc ça c'est déjà un élément on va dire philosophique, mais bon sans surprise. Dans le contexte actuel. Et donc cette loi-là donc, est construite dans le prolongement des lois antérieures, loi travail notamment, mais d'autres lois, qui visent à, au contraire, limiter les possibilités de réellement choisir, puisque c'est de plus en plus sous la contrainte, sous la sanction, sous les décisions donc, des pouvoirs économiques, patronaux notamment, que cette liberté de choisir pourrait s'exercer. Donc il y a trois parties principales dans cette loi. Il y a une partie qui concerne une réforme structurelle de la formation professionnelle. Donc grosso modo, c'est alimenter les marchands de formation, c'est-à-dire la libéralisation de la formation professionnelle qui consiste à ce que la délivrance de la formation professionnelle se fasse uniquement sous un regard économique par des organismes privés avec de la rentabilité. Réforme de l'apprentissage qui entre dans cette même logique limiter le droit des apprentis et de les soumettre aux desiderata des entreprises et des décideurs économiques. Et troisième partie sur l'assurance chômage, donc comme tu le disais, qui vise, elle, à mettre sous contrainte les demandeurs d'emploi avec un hochet, c'est-à-dire qui est agité devant les chômeurs, c'est les promesses de campagne de Macron en disant on va indemniser de façon plus large les chômeurs, y compris les démissionnaires, y compris ceux qui ont créé une entreprise, ça c'est le truc qui est agité un petit peu devant les chômeurs, mais du fait qu'on va mieux indemniser, le discours politique, du fait qu'on va mieux indemniser, mieux couvrir, mieux protéger, on va mettre plus de contraintes, et c'est donc tout l'arsenal des sanctions, de la répression, du contrôle des chômeurs qui prend une ampleur inégalée.
D'accord, merci. Et justement, tu parles de ces contraintes, de ces sanctions qui se durcissent là avec ces décrets. Je crois qu'il y a plusieurs catégories de sanctions. Il y a notamment le fait de ne pas se présenter à un rendez-vous. Et il y a une fameuse sanction sur laquelle on se pose un peu des questions, c'est le risque d'être radié si on n'accepte pas une offre raisonnable d'emploi. Est-ce que peut-être que tu pourrais donner quelques informations sur, jusqu'à ici, dans la pratique, quels étaient les principaux motifs de radiation en fait, des chômeurs, toi, de ton point de vue ?
Tout à fait. Alors, juste préciser que c'est un sujet qui est assez complexe dans son appréciation, avec des choses qui sont très brutales que je vais présenter, mais des choses qui sont un peu plus complexes. Ce qu'il faut retenir, donc, les changements les plus importants, c'est que, grosso modo, l'appréciation, le Code du travail prévoit qu'un chômeur doit faire une recherche active d'emploi. C'est-à-dire qu'il cotise pour une assurance chômage, comme on cotise pour une assurance vie, comme on cotise pour la maladie, la retraite et autres, mais à la différence des autres dispositifs, quand on cotise pour se prévenir le fait qu'on soit malade, on n'est pas obligé de se soigner. Hein, on n'a pas d'obligation de soins. Hein, une injonction de soins n'existe pas encore en France. Par contre, quand on a perdu un emploi, une des conditions pour lesquelles on peut continuer à être indemnisé, sachant qu'il y a très peu de chômeurs qui sont indemnisés, hein, on situe le chiffre aux alentours de 45%, 43-45% seulement des chômeurs inscrits à Pôle emploi qui sont indemnisés hein, sur la durée. Hein, voilà. Quand on est indemnisé au chômage ou quand on perçoit une allocation, on est tenu, c'est prévu dans le Code du travail, d'effectuer des démarches actives de recherche d'emploi. L'obligation de chercher avec des nuances a toujours existé. Mais là, elle prend un caractère coercitif imposé avec des sanctions à la clé qui est d'une ampleur inégalée. Hein. C'est l'inflexion qui vient d'être donnée depuis le 1er janvier. Et donc, l'appréciation de cette démarche active de recherche d'emploi conduit à inventer, à répertorier toute une série de comportements déviants, on appelle ça des manquements dans le texte de loi, donc qui sont imputés aux seuls demandeurs d'emploi. Quasiment rien au niveau des entreprises, hein, faut le préciser, dans les usagers du service public. Donc, quand le demandeur d'emploi est soupçonné d'avoir fait un manquement à ses obligations, hein, droits et devoirs et autres, donc à ses devoirs, l'administration, donc Pôle emploi, enfin le service public Pôle emploi, peut appliquer toute une série de sanctions. Et c'est donc à la fois l'appréciation de ces manquements et les conséquences en termes de sanctions qui viennent de connaître cette inflexion importante, c'est-à-dire, grosso modo, la majorité des sanctions, des radiations qui étaient effectuées par Pôle emploi, c'était ce qu'on appelle l'absence au contrôle, c'est-à-dire le pointage mensuel. C'est-à-dire que beaucoup de demandeurs d'emploi, pour des raisons diverses et variées, oublient ou ne font pas leur actualisation mensuelle en fin de mois. Et donc ça génère automatiquement une cessation d'inscription. Donc c'est le système qui aujourd'hui produisait le plus de radiation, de suspension d'inscription et d'avertissement avant radiation. Le système qui vient de changer à partir du 1er janvier requalifie ces absences en disant « c'est plus une absence à une convocation, c'est une absence à un rendez-vous de Pôle emploi ». Alors la nuance est peut-être subtile, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, je vais essayer de l'expliquer simplement, mais un rendez-vous à Pôle emploi, ça peut être une convocation, comme précédemment, ça peut être une invitation, ça peut être le fait de dire à une personne « présentez-vous sur un forum, une manifestation publique, présentez-vous sur telle et telle chose ». Donc c'est plus une convocation, mais c'est simplement on vous a fixé un rendez-vous avec un partenaire, avec un prestataire, avec une mission locale, etc., etc. On a constaté que vous n'étiez pas présent et donc on applique une sanction. Voilà. Donc ça, c'est un motif qui change. Et ensuite, il y a toute une série d'autres manquements, dont le manquement à la recherche intensive de recherche d'emploi, qui vont générer des sanctions.
Du coup, ce dont on parlait hier, c'était aussi qu'il y avait une place assez importante à la subjectivité, en fait, sur ce qui peut être qualifié ou pas comme raisonnable.
On en vient à l'offre. Effectivement, tu as raison. Alors, sur l'offre raisonnable d'emploi, effectivement, il y a à la fois une présentation d'objectivité, on dit voilà, on va mettre en place des paramètres clairs, c'est-à-dire le métier qui est proposé à la personne qu'elle a accepté, la zone géographique de recherche d'emploi qu'elle a accepté dans son dossier de Pôle emploi, ce qu'on appelle le projet personnalisé d'accès à l'emploi, le PPAE, projet personnalisé d'accès à l'emploi, donc le métier, la zone géographique, le salaire, je vais y revenir, et là, deux nouveautés, c'est le contrat de travail, est-ce que la personne accepte un CDI ou un CDD, ou une mission d'intérim, donc ça on peut maintenant le préciser, ça n'existait pas avant, et ensuite donc c'était le temps, ça devient donc le temps de travail, donc temps plein ou temps partiel. Et donc, sur le salaire, qui était un des critères de l'offre raisonnable d'emploi avant l'inflexion qui venait de donner là, jusqu'à présent, la notion c'était le salaire qu'avait eu la personne dans son précédent emploi, si elle exerçait le même métier. Donc il pouvait être un salaire dû à son ancienneté, par exemple, ou à ses qualifications dans cet emploi, dans la convention collective, qui pouvait être un salaire important. Dorénavant, on va devoir appliquer comme critère d'appréciation si l'offre est raisonnable ou n'est pas raisonnable, enclenche une sanction ou pas une sanction, le salaire normalement pratiqué dans la région sur ce type
et
de poste.
Du coup, on voit bien que ces mesures-là, elles ont aussi pour fonction d'envoyer un signal aux salariés de Pôle emploi. Et du coup, ça me permet de peut-être...
Aux salariés en général, et aux salariés en général. Mm-hmm. C'est-à-dire la notion que les chômeurs constituent, donc c'est une expression historique, hein, l'armée de réserve pour les salariés, c'est effectivement dire à un salarié, bah, tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai signalé un chômeur qui avait refusé un salaire à 2000 euros, puis j'ai appris par Pôle emploi que ce demandant d'emploi, il avait été radié parce qu'il a refusé ce salaire que ça. Mais écoute, moi, je suis désolé, mais le chiffre d'affaires de l'entreprise, bah, écoute, maintenant, tu vas accepter de baisser ton salaire. C'est ce qui prévoyait les lois travail précédemment, c'est-à-dire la possibilité de moduler le salaire en fonction de l'activité de l'entreprise qui est dans les lois travail, va être amplifiée, cette possibilité-là, par les retours d'informations en lien avec Pôle emploi sur ce type de critères-là.
Ouais. Et sinon, toi, du côté des salariés de Pôle emploi, quel est le climat, en fait,
alors,
en ce moment?
Je peux difficilement donner quelque chose qui soit, disons, une moyenne de ou quelque chose qui reflète. Moi, j'ai des observations autour de moi. Je travaille en agence, hein, en Ariège. J'ai des collègues donc dans mon syndicat. On était en réunion aujourd'hui, donc on a échangé là-dessus. Il y a deux types d'attitudes. Il y a l'attitude de certains collègues qui disent, ben, quelque part, ben, c'est normal, les droits, les obligations. Bon, effectivement, c'est un peu plus restrictif, mais en même temps, on les préviendra. S'ils font pas ce qu'il faut, ben, tant pis pour eux, hein. Nul n'est censé ignorer la loi, voilà, ils seront au courant, ils seront informés. Bon. Et deuxième attitude, dire mais c'est totalement incompréhensible. On connaît, nous, en tant qu'agents de Pôle emploi, l'état du marché du travail sur certains départements, sur certaines zones géographiques, en fonction de restructuration, etc. Donc, structurellement, on n'a pas suffisamment d'emplois à proposer à l'ensemble des demandeurs d'emploi. Et la réponse que donne ce gouvernement, l'inflexion que donne ce gouvernement, qui est dans la poursuite des précédents, hein, on n'exonère pas les anciens, hein, le contrôle, les sanctions des chômeurs, c'est un processus permanent. Hein, mais là, il y a vraiment cette inflexion importante. Dans cette période-là, dans le mouvement social actuel, les signaux envoyés, on ne fait pas assez d'efforts si on prend les dernières déclarations du président de la République, mais dans ce contexte-là, dire ben, on va sanctionner encore plus les chômeurs sans mettre en face les quelques, j'ai parlé tout à l'heure de hochets d'amélioration pour les démissionnaires, etc., etc. Ben, sans aucune compensation, c'est ressenti comme quelque chose de totalement injuste et quelque chose qui va générer, de l'appréciation de beaucoup de collègues, beaucoup d'incompréhension, de colère et d'agressivité. C'est-à-dire que le chômeur qui va arriver à l'accueil en disant « voilà, ben, j'ai reçu une sanction pour un entretien auquel je n'ai pas été ou parce que je n'ai pas suffisamment fait de recherche d'emploi », il dit « mais je ne comprends pas, je reçois ce courrier et comment est-ce que je peux faire un recours ?»« Ah ben non, le recours, ce n'est plus dans votre agence, vous allez le faire au niveau du département de Pôle emploi, hein, au niveau départemental. » Le mécanisme des recours également éloigne les chômeurs des lieux de décision. Donc l'ensemble de ces choses-là qui sont très brutales. On va, l'inflexion aussi, c'est qu'on va radier les gens un mois, deux mois et quatre mois de façon progressive. Et en même temps, comme dirait l'autre, on va leur supprimer les allocations chômage, bien sûr, pendant les périodes où ils ne sont pas inscrits, mais également quand ils reviennent s'inscrire à l'issue de la période de radiation, on va leur enlever l'équivalent un mois, deux mois, quatre mois d'allocations chômage qu'ils avaient acquis en cotisant. Donc cette double peine, plus la brutalité de la sanction, ce côté automatique, le fait qu'ils ne pourront pas faire de recours directement dans l'agence où ils sont inscrits, mais à un niveau supérieur, va créer de l'incompréhension, de la colère et de l'agressivité. Donc ça, c'est un sentiment qui est aujourd'hui très largement partagé, y compris par les encadrants de Pôle emploi.
Et est-ce que toi, tu vends un peu de mouvement de chômeurs qui s'organise autour de ça?
Alors, tout le monde est vent debout. Tout le monde est vent debout. Toutes les organisations syndicales, donc de salariés, disent au niveau confédéral, non, mais c'est trop brutal, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne réponse à apporter à la situation du chômage aujourd'hui en France. C'est pas en culpabilisant, en stigmatisant les chômeurs par rapport à leurs éventuels manquements qu'on va gagner. Et du côté des associations de chômeurs, également vent debout, parce que, effectivement, leurs revendications, en tant qu'association de chômeurs, défense des chômeurs, sont aux antipodes de ces mesures de sanctions. Ils demandent au contraire plus d'accompagnement, ils demandent plus d'humanité, ils demandent plus de moyens à Pôle emploi, ils soutiennent nos revendications sur les effectifs, sur les moyens et autres, et la réponse qu'il leur a apportée là au 1er janvier, c'est de dire on va sanctionner encore plus de façon automatique, de façon inhumaine et autres. Donc tout le monde est vent debout. On n'a pas encore trouvé la réponse en termes de mobilisation, mais il y a aujourd'hui un rapprochement de ces forces syndicales et associatives de chômeurs pour apporter des solutions. Nous, pour l'instant, on donne le conseil aux collègues de ne pas appliquer ces mesures, de le faire avec le moins de zèle possible et de trouver toutes les failles possibles qui existent dans l'application de ces mesures, parce qu'elles sont inhumaines, elles sont disproportionnées et elles sont contre-productives au niveau du chômage.
Ouais, du coup, quand on préparait l'émission, on se demandait un petit peu, ça va être quoi les répercussions du point de vue des chômeurs hein, de cette réforme. Bah ouais, c'est toujours un renforcement du contrôle et la crainte d'être radié. Et on se disait, mais en fait, c'est complètement absurde. Normalement, on ne devrait pas associer le droit d'être indemnisé avec la recherche de chômage. C'est comme, petit parallèle avec les voitures, c'est comme si vous faites... Par exemple, brûler votre voiture un samedi après-midi et vous avez une assurance et en fait, on décide de vous indemniser que si vous avez prouvé que vous cherchiez une autre voiture, quoi. Voilà.
C'est très éclairant, merci. on parle des sanctions envers les chômeurs, mais le gouvernement a quand même prévu d'instaurer des sanctions. Attention, les patrons tremblent. Des bonus-malus sur les contrats courts qui plombent l'assurance chômage. Et voilà, mais enfin bon... C'est en négociation, ça fait longtemps que ça traîne dans les tiroirs, on ne sait pas du tout si ça va être mis en place et si ça va avoir une quelconque importance.
Et ce qu'il dit dans l'enregistrement, c'est que les entreprises sont beaucoup moins tenues de donner des garanties, en fait, elles sont beaucoup moins contrôlées.
Bah, on a vu ce que le CICE pouvait donner, par exemple. Ouais. On leur file plein de fric et on leur demande aucun compte à rendre, en fait. Ils vont essayer de moraliser le marché du travail, ce qui est une belle blague.
Et ça me fait penser un petit peu au mot d'ordre de l'action des Gilets jaunes à Pôle emploi, qui était la banderole est marquée.
Arrêtez de faire chier les chômeurs.
Exactement.
Voilà, c'était un mot d'ordre très simple. D'ailleurs, en parlant de cette action, on va passer un petit montage croisé entre deux actions de la semaine dernière des GJ. Donc il y avait d'une part l'interpellation des syndicats pour lancer un appel à la grève générale à la Bourse du Travail. Donc une grosse assemblée avec des syndiqués, des gilets jaunes syndiqués, pas syndiqués. C'était assez intéressant. Il faut voir ce qu'il en ressort. Et parce qu'on attend toujours la grève générale, et donc croisée avec cette petite action au Pôle emploi.
Et la commission chorale, là, ça
oh,
va.
Oh, gilet jaune et au soleil. Oh.
0,5% de fraude sociale, on emploie des contrôleurs, plus 80 milliards de fraude fiscale, on supprime 300 000 contrôleurs. 3,5 millions de chômeurs, 300 000 emplois vacants, besoin d'un cours de maths ? Comment faire des salariés du bétail faciles à exploiter ? Réforme du code du travail, réforme de l'assurance chômage.
C'est fou, on a fait trois pas l'emploi, on n'a toujours pas de travail.
Comment tu vois une action Pôle emploi qui fonctionnerait ?
Franchement, je sais pas, je me demande bien ce que pourrait être une action. Je suis venu pour ça en fait, pour voir qu'est-ce que ça voulait dire aller bloquer un Pôle emploi.
Tu penses qu'il faut...
Il est bloqué, mais en réalité, il n'est pas bloqué. Derrière, c'est ouvert. Du coup, bon, c'est symbolique, c'est pour faire trois photos. J'ai l'impression que le seul intérêt, là, c'est plutôt de réussir à relier les gilets jaunes, donc le mouvement des gilets jaunes, avec l'éventualité d'un mouvement social plus large qui viendrait sur le chômage et la retraite, et les retraites, qui est censé venir à partir de février-mars... Et du coup, de faire une passerelle entre les deux, quoi, qu'il n'y ait pas d'un côté les syndicats, le mouvement social, de l'autre côté les gilets jaunes. Parce que sinon, les gilets jaunes, ça va plus ou moins s'arrêter, et il va y avoir un mouvement social tout mortifère comme il y a eu déjà les autres années. Alors que là, les gilets jaunes ont un peu plus la pêche. C'est une question stratégique, quoi, un peu. Il y a peut-être un intérêt à ce que les modes d'action des uns et des autres se rejoignent et que ça fasse tomber le gouvernement. Et...
Pour une information, hier il y a eu la commission action sur des gilets jaunes et il y éclaté, il y a eu un groupe de travail consacré, intitulé Syndicat Grève. Donc ça montre qu'il y a quand même, très généralement dans les Gilets jaunes, une volonté de soutien aux syndicats. On s'est dit, bon, alors, je vais développer. Donc on s'est dit qu'on allait aller en soutien à toutes les grèves, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient. On a pensé en premier à la grève du service de néonatologie, mais indépendamment de ça, voilà, on veut vraiment aller en soutien à un maximum de grèves. Ce que je sais, c'est que maintenant, on est face à une situation où il y a un tel éveil du peuple qu'on peut vraiment créer une unité. Et en fait, je pense que vraiment, le capitalisme, le néolibéralisme, sa plus grande victoire, c'est de nous avoir divisés à fond. Mais on a besoin aussi d'outils pratiques de communication, parce que personnellement, je suis entrepreneur, je ne vois pas débarquer dans une usine et dire « Regarde, allez, il faudra se mettre en grève maintenant. » Ben non, je ne sais pas faire ça, quoi. Et du coup, entrez donc, soyons unis.
Je conseille à tous les chômeurs d'envoyer un compte-rendu à chaque fois qu'ils traversent la rue, vu que c'est une recherche d'emploi, d'après Macron. Donc ça va remplir les fichiers de recherche d'emploi. Donc à chaque fois que vous traversez la rue, ben, vous signalez à votre conseiller Pôle emploi que vous avez cherché du travail. Et vous notez toutes les rues traversées dans Toulouse ou ailleurs où vous êtes. Voilà.
Moi, je m'appelle Salama. Et en fait, au départ, effectivement, ben, moi, j'ai eu un petit peu peur aussi de ce qui se disait dans les médias. Parce que bon, quand tu t'appelles Salama et quand tu dis que en fait, les Gilets jaunes, c'est des fachos, tu hésites à y aller lourdement. Et puis, en fait, ben, j'y suis allée. Et puis, j'ai vu quoi ? Qu'il y avait énormément de femmes. Et ça m'a franchement fait chaud au cœur. Parce que moi, de mon point de vue, quand les femmes sont dans la rue, c'est très significatif aussi. Voilà, moi je suis une grande déçue du Parti communiste de la CGT. Voilà, je vais passer sur les raisons, mais en gros, moi j'ai été extrêmement déçue. On parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui, de la réforme des retraites. Moi je trouve que la direction nationale de la CGT porte une énorme responsabilité sur la stratégie des journées d'action qui a été lamentable. Et à part essouffler le mouvement, je vois pas ce que ça a donné. Donc voilà. Sur le CPE, une autre personne en a parlé. Moi, je me souviens très bien, à ce moment-là, j'étais déléguée pour la Fédération communiste de la Garonne. J'avais Marie-Georges Buffet et Bernard Thibault en face de moi. Et j'avais poussé une gueulante, j'avais été appelée par tous les délégués de la France entière. Comme quoi, c'était vraiment hallucinant qu'on n'appelle pas aussi contre le CNE. On était en position de force dans le rapport de force. On allait gagner le retrait du CPE et il n'y avait pas de manière claire le discours aussi du retrait du CNE.
Moi, je voulais juste poser une question. Quel mouvement social réactionnaire, en effet, permet à autant de femmes de se mobiliser, mais autant les femmes en avant ? Moi, j'en ai pas vu beaucoup d'autres. Et je pense que du coup, ça va nous faire réfléchir un petit peu à cette soi-disant réaction rampante au sein des Gilets jaunes. Je pense que c'est une mobilisation qui a permis au contraire de visibiliser parmi les plus précaires de notre classe. Dimanche dernier, on était près d'un millier de femmes Gilets jaunes à manifester dans les rues de Toulouse. Et on fait ça dimanche prochain, il y a des tracts qui sont en train de circuler. Et justement, je pense que c'est ce que cette mobilisation elle a permis. C'est de visibiliser, entre autres, parmi d'autres secteurs, ces femmes précaires, ces femmes qui sont d'habitude invisibles, ces travailleuses en EHPAD, ces infirmières, qui font tourner la société au quotidien et qu'on voit jamais d'habitude, et qui là ont revêtu un gilet de haute visibilité, qui sortent dans les rues, qui crient leur colère. Et surtout, moi, je voulais conclure en disant qu'à mon avis, ce mouvement, c'est aussi et surtout le mouvement de ceux qui n'ont rien à perdre, de ceux qui ont tout à gagner. Et je pense que c'est pour ça que ça a duré plus aussi longtemps et que la douleur a fait grandir.
Mais les chômeurs, c'est vrai qu'avant, parce que j'ai fait le mouvement de 98, quand on venait dans Pôle emploi, enfin, à la NPE, on était sûr d'en rencontrer, mais aujourd'hui, il y a très peu de chômeurs à l'intérieur des Pôles emploi. Donc, oui, viser bien sûr les chômeurs, mais ce sera vraiment au compte-gouttes, qui font tout pour que les chômeurs ne se rencontrent plus. C'est-à-dire que chacun est derrière son ordinateur à chercher du travail et presque plus personne ne vient à Pôle emploi aujourd'hui, puisqu'on vient pour les rendez-vous individuels. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de se mettre en relation, pour moi, ça n'engage que moi, avec les salariés pour qu'eux aussi se mettent en grève. Et on en a parlé hier, on était à la Bourse du Travail. Appeler la grève générale, et bien c'est aussi pouvoir discuter avec les salariés qui sont là et qui se mettent en grève contre leurs conditions de travail, puisqu'aujourd'hui, les salariés ne font plus leur boulot d'accompagnement, mais ils font un boulot de flic, quoi.
C'est quoi pour vous une action Pôle emploi réussie ?
À la fin, on mange un contrôleur.
Ouais, c'est...
Lol.
Merci. Merci pour ce témoignage glaçant d'une société qui refuse.
On a faim. Des chocos où on pète tout.
On ne veut plus d'avoir comme objectif, comme perspective d'avenir, ça. On n'en veut plus de ce monde dans lequel ils nous font vivre. Et c'est pour ça que tout à l'heure, il y avait quelqu'un là qui disait quelque chose de très drôle. Hein. Tu parlais des médias, tu disais oui, les médias ils nous ont fait croire que les syndicats c'était des rebelles, c'était des méchants et c'était des antipatrons. Mais il faut assumer au bout d'un moment. Moi, je suis une méchante, je suis une rebelle, je suis une antipatrie. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour faire trembler Macron ? Parce que bon, là, en ce moment, il est un peu coincé à l'Elysée, c'est plus quoi faire, j'ai voulu tout pas, il tremble comme ça, dès qu'il est un peu en PLS. Et en plus, il n'y a plus rien pour l'aider, c'est terrible. c'est mortel. Comment est-ce qu'on fait pour faire trembler Macron ? Bah, bien sûr qu'il faut qu'on se rejoigne. Et alors là, moi, je vais poser plein de questions. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qui empêche les gilets jaunes d'aller rejoindre les syndicats dans la rue ? Ah, parce que nous, moi, je sais ce qui m'empêche de rejoindre les gilets jaunes dans la rue. Enfin, j'y suis tous les week-ends. Hein. Mais c'est que vous êtes partout. On ne sait jamais où aller. On ne peut pas vous rejoindre. Vous êtes tout autour de nous. Donc voilà. Mais je suis en tout cas, je fais toutes les manifs et voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on passe voilà ces questions-là, qu'on passe cette espèce de clivage qu'il y a gilets jaunes syndicats. En réalité, il y a des gilets jaunes à la CGT, il y a des CGT à la. Bon, bref, vous m'avez compris. Et puis, on peut tous être gilets jaunes. Donc, je pense que là, maintenant, ce qu'il faut poser comme question, c'est comment est-ce qu'on construit la grève du 17 partout où on est, partout dans nos milieux, et comment est-ce qu'on construit surtout la petite visite à Montbéliard le 22. Voilà.
Plutôt casseur que contrôleur.
Ouais.
Et sans transition, on va passer au deuxième sujet. On va parler de l'incendie qui a eu lieu la semaine dernière, donc dans la nuit du 10 janvier dernier. Il y a un incendie qui s'est propagé dans l'immeuble du 73 rue Bayard, qui est un immeuble qui est situé juste devant la gare Matabu à Toulouse. C'est un immeuble qui avait été construit en 1913 et qui s'est embrasé très rapidement, nécessitant l'évacuation de près de 72 personnes en pleine nuit. Donc par un heureux hasard, tous les habitants et habitantes sont sortis vivants. On compte cependant 20 blessés. Donc cet incendie fait écho à plusieurs sinistres dramatiques pour certains qui ont touché des immeubles vétustes des grandes villes en France. Par exemple, le 5 novembre dernier, deux immeubles marseillais du quartier de Noailles se sont effondrés, causant la mort de 8 personnes. Et plus récemment, une explosion de gaz à Paris a causé la mort de 4 personnes. Donc au-delà du traumatisme réel subi par les victimes, ces sinistres nous interrogent sur l'insalubrité de certains logements en centre-ville, alors même qu'il y a des projets de rénovation en fait, dans ces mêmes espaces, mais aussi sur la prise en charge ou la non-prise en charge par la municipalité de Toulouse de ces sinistrés. Et du coup, aujourd'hui, pour en parler, on est en compagnie de Jérémy. Salut Jérémy.
Bonjour.
Qui va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé cette semaine, en fait, où tu as perdu ton habitation. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler, avant même l'incendie, nous parler de ton logement rue Bayard, de son état général avant l'incendie ?
Oui, alors son état général, moi personnellement, j'avais un vieux compteur chez moi qui était fixé sur une planche en bois. Donc je pense pas qu'il était en norme, déjà pour commencer. Au niveau du lino, et sous le lino c'était du plancher en fait, et on voyait clairement que le plancher avait pourri avec l'humidité, était vraiment en sale état. Le lino, c'est pareil. Le lino, il y avait des, ça faisait une sorte de donane sur le lino. Ça avait gonflé de partout. Le lino était complètement pourri. L'immeuble était infesté de cafards. Les voisins de mon étage, de quatrième étage, ils ont tous... Et ils chopaient des punaises de lit chez eux. Ils avaient tous des plaques rouges de la tête aux pieds. Et l'immeuble a été traité plusieurs fois pour ça, mais elle revenait à chaque fois. Et à ce qui part aussi, au premier étage, il y avait même des personnes qui avaient retrouvé des rats carrément dans des appartements. Mmh. C'est la société de nettoyage qui était venue, qui nous avait signalé ça aussi.
Et malgré ça, il n'avait pas été inscrit, je crois, comme logement insalubre.
Non, malgré ça, il n'a pas été.
On se demande ce qu'il en faut.
Voilà, il n'a pas été. Ça n'a pas été inscrit en logement insalubre, mais après, moi, je pense qu'ils ont fait traîner parce que ça demandait beaucoup d'investissement. Du coup, ils ont fait traîner comme ils pouvaient. Du coup, ils ont fait venir des entreprises avec le syndicat. Ils ont vu pour faire venir des entreprises pour traiter l'immeuble contre les cafards, les punaises de lit. Ils sont venus plusieurs fois dans des appartements, mais au bout de 2-3 jours, il y avait toujours des cafards, il y avait toujours des punaises de lit. Ça changeait rien, quoi. C'était vraiment un pansement inutile, en fait.
Et sur les risques d'incendie, il y avait déjà eu des incendies ?
Non, moi ça fait 7 mois que j'habitais à la rue Bayard.
Okay.
Et non, j'ai pas eu connaissance d'incendie dans le passé.
D'accord.
Et du coup, ça s'est passé comment pour toi mercredi dernier ?
Mercredi dernier, moi je me suis réveillé à 6h30 à cause des fumées. Et bon, il y avait une alarme incendie qui sonnait, mais c'était vraiment aigu. C'est pas ça qui m'a réveillé, quoi. C'est plus les fumées nocives qui m'ont réveillé. Et je me suis réveillé à 6h30 du matin. Et moi, je pensais que c'était mon compteur, justement, qui prenait feu, en fait. Il chantait une odeur de plastique brûlé. Je pensais que ça venait de mon compteur. J'ai regardé mon compteur. Il était dans un bon état. Et du coup, j'ai voulu allumer les lumières de chez moi. J'ai vu que les lumières étaient fermées. J'ai regardé ma fenêtre, qu'ils avaient coupé carrément l'électricité de l'immeuble. J'ai regardé ma fenêtre. J'ai vu les pompiers qui étaient en bas de ma fenêtre avec une échelle déployée qui se trouvait juste en dessous de chez mes voisins, en fait, au troisième étage. Du coup, je pensais que l'incendie venait de mes voisins. Ils avaient laissé une cigarette allumée ou autre. Et en fait, non. En fait, je suis parti dans le couloir. J'ai ouvert la porte de chez moi. Je suis parti dans le couloir pour regagner... l'escalier, en fait, pour descendre par l'escalier. J'ai eu le réflexe de filmer avec mon téléphone portable. Je me suis dit, au cas où, je vais quand même filmer, voir ce qui se passe, si je filme quelque chose d'intéressant. Et en fait, c'est là que je me suis aperçu qu'en fait, un quart de l'immeuble, il était complètement effondré du quatrième étage jusqu'au rez-de-chaussée. Et en fait, du coup, impossible pour moi de rejoindre la cage d'escalier. Et du coup, je me suis rapproché un peu du trou... En fait, il y avait un trou dans le sol carrément, c'était effondré. On voyait des flammes qui ressortaient du sol. Je me suis approché un petit peu, mais pas trop, parce que j'avais peur que justement ça s'effondre, vu que le bâtiment était fragilisé. Et c'est là que j'ai réalisé vraiment que j'étais coincé dans l'immeuble. Et je vois toutes les portes de mes voisins et grandes ouvertes, plus personne dans l'immeuble. Je regarde sur la droite, dans le renfoncement, il y avait deux appartements qui se situaient. Et c'est là que j'ai réalisé vraiment que c'était l'immeuble était en train de s'écrouler complètement, quoi. Et les deux appartements, ils étaient complètement inexistants. Pareil, tout effondré jusqu'au rez-de-chaussée, du quatrième jusqu'au rez-de-chaussée. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à paniquer. Et je suis revenu sur mes pas en courant. Je suis parti à la fenêtre, j'ai appelé les pompiers, j'ai sifflé par la fenêtre, ils ne m'entendaient pas. Du coup, j'ai pris la première chose que j'ai trouvée sous la main, c'était une lampe de poche. J'ai pris la lampe de poche, je l'ai jetée sur le camion de pompiers. Et là, ils ont regardé en l'air, ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais encore dans l'immeuble. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, bonne question, il n'y a personne qui est venu me chercher chez moi. Personne n'a toqué chez moi, aucun voisin n'est venu me chercher. Là, tout le monde avait déserté, quoi. C'était vraiment l'enfer. Et en fait, c'est là que justement, et en fait, ils ont essayé de déployer l'échelle jusqu'à ma fenêtre. Mais elle n'atteignait pas jusqu'à ma fenêtre, elle n'allait pas jusqu'à ma fenêtre. Du coup, j'ai dû passer dans l'appartement d'à côté. L'appartement d'à côté, ça le faisait toujours pas. J'ai dû repasser encore dans l'appartement d'à côté. Le voisin avait verrouillé sa porte avec une sécurité. Du coup, j'ai défoncé la porte du voisin pour pouvoir être évacué avec l'échelle dans l'appartement de mon voisin, quoi. Et après, pour la prise en charge, je suis descendu à l'échelle. On est parti. Il y avait l'hôtel d'à côté, en fait, qui recueillait tous les gens de l'incendie, en fait, mais il n'y avait déjà plus personne, en fait. Et c'est, en fait, ils m'ont pris en charge, ils ont pris ma tension, et j'ai été livré à moi-même, en fait.
Ils t'ont dit c'est bon, tu vas bien.
Et du coup, en gros, oui, en gros, je vais bien, voilà. Et du coup, j'ai demandé où étaient toutes les autres personnes, parce que je me faisais du souci pour mes voisins quand même. Je voulais savoir si tout allait bien. Et ils m'ont dit que toutes les autres personnes, en fait, étaient au stade Lautrec. Et en fait, du coup, bah, j'ai dû me débrouiller par mes propres moyens aussi, à pied, après l'incendie. J'étais à pied jusqu'au stade Lautrec pour voir ce qui se passait. Non, c'était le stade Lautrec, c'est juste à côté de la rue Bayard, ça se trouve à 5 minutes à quoi.
Ah d'accord.
Il y a le stade Lautrec, il y a la piscine, il y a une piscine aussi.
Ah, je confonds, pardon.
Voilà.
Ok. Et du coup, t'es arrivé là-bas et en fait, t'as fini par arriver au stade Lautrec et en fait, il y a tout le monde qui est logé là-bas depuis mercredi.
Oui, voilà. Il y a tout le monde qui était logé là-bas en fait, ça a duré une journée. Et après, en fait, ils ont changé de stade, ils sont partis... à un autre endroit, ils ont été déplacés à un autre stade en fait, et pour l'instant, l'heure d'aujourd'hui, ils sont toujours dans ce stade.
Ok. Ouais. Et lundi dernier, il y a eu un rassemblement à 12h30 au Capitole, donc devant la mairie, donc organisé par les personnes, enfin par les habitants du 73. C'était quoi, en fait, vos demandes lundi et la réaction qu'il y a eu, en fait, de la part de la mairie?
En fait, bah, tous les locataires, oui, on était devant la mairie en train de protester avec des banderoles. Et on était aussi avec une association qui nous aide aussi pour le logement, pour défendre nos droits aussi. Et donc, ils ont été reçus, en fait, à la mairie. En fait, la mairie a promis comme quoi que personne ne se retrouverait à la rue. Apparemment, ils ont déjà débloqué quelques logements pour des personnes, mais c'est dans des chambres d'hôtel pour l'instant, pour 6 ou 7 personnes. Et ils ont promis aussi des dons alimentaires. Ils devraient nous débloquer aussi récemment un petit pécule, normalement, et des produits d'hygiène. Mais pour l'instant, rien n'est fait, à part 6 ou 7 personnes qui ont été casées dans des hôtels à la rue Bayard, quoi.
Et pourquoi ces personnes-là?
Je ne sais pas du tout. Après ça, je ne sais pas du tout. Ça doit être des personnes, je pense, qui ont des mères de famille, qui ont des enfants. Je pense qu'ils ont dû passer en priorité.
Ok.
C'était assez choquant aussi comment ça s'est passé. Lundi, il faisait froid et il pleuvait. Il y avait quand même une bonne quarantaine de personnes rassemblées avec des enfants devant le Capitole. Et il y avait un rendez-vous qui était prévu plus tard, mais les personnes ont demandé à ce qu'il y ait un rendez-vous tout de suite. Et on nous a répondu que la mairie était en train de déjeuner.
Oui, voilà, exactement.
C'était quand même...
Ils étaient en train de manger. Et en fait, on voulait avoir le rendez-vous avant, parce que voilà, on se retrouve à la rue, sans affaires, sans rien.
C'est un petit peu une urgence.
Il y avait une certaine pression pour nous. Donc, on voulait avoir le rendez-vous avant, savoir vraiment qu'est-ce qui allait se passer. Et du coup, bah, la réponse, c'est que oui, ils étaient en train de manger, exactement. Et ils nous ont fermé les grandes portes de la mairie, ils nous ont fermé les portes à la gueule, en fait.
Ouais.
Donc voilà la réponse. Donc on a dû attendre qu'ils mangent, qu'ils digèrent. Et on a enfin eu notre rendez-vous prêt par la suite.
Et il y avait aussi une des revendications de ce collectif-là, c'était qu'il y a des personnes qui ont des papiers et d'autres personnes qui n'en ont pas, qui habitent dans ce logement-là. Et l'idée, c'était... Enfin, une des demandes, c'était qu'il y ait un traitement équitable des personnes avec et sans papier.
Oui, exactement. Il y a ce problème-là. En fait, il y a des personnes qui avaient des papiers. Il y a des personnes qui n'avaient pas de papier aussi. Mais il y a un problème aussi parce qu'en fait, il y a des personnes qui étaient, oui, immigrés, certes, mais ils avaient leur papier français. Mais leur passeport est resté dans leur logement. Du coup, ils ont redemandé à la mairie de refaire leur papier. Et la mairie n'a pas voulu leur refaire leur papier, quoi. Ça n'a pas été pris en charge.
Waouh, d'accord, ça je ne savais pas.
Mm-hmm.
D'accord. Et du coup, la suite, là, du coup, aujourd'hui, à 18h, bah, dans 10 minutes,
oui.
Y a une rencontre avec vos avocates.
Oui, c'est ça, en fait, y a une rencontre, en fait, pour savoir les avancées, pour voir si la mairie a déjà tenu promesse sur ce qu'ils nous ont promis. Ensuite, pour voir aussi comment ça se passe. Il y a deux avocats qui font partie de l'association, en fait, pour nous aider. Et c'est pour voir aussi comment on peut récupérer nos loyers, récupérer nos cautions aussi. Parce qu'on se retrouve à l'heure d'aujourd'hui, on se retrouve dehors. La plupart des gens, ils n'ont pas de sous, ils ont laissé leur carte bancaire, on n'a pas d'argent. Moi, les habits que j'ai sur moi, elles ne sont même pas à moi. Elles ont été prêtées par des amis à mes voisins, en fait, qui m'hébergent. Donc voilà, on aimerait bien savoir aussi, on va savoir ça justement ce soir par la suite. Et il y a eu un rendez-vous aussi avec les propriétaires et le syndicat aussi. Et on en saura justement plus par la suite. Apparemment, moi après, j'ai mon assistante sociale qui m'a appelé cet après-midi. Il y a des logements qui devront être accessibles une fois le bâtiment viabilisé. On pourra avoir accès au bâtiment. Mais pour les appartements qui ne sont pas trop endommagés, on pourra récupérer nos affaires d'ici peu, apparemment. Voilà.
Ok. Et du coup, pour la suite, on pourra s'informer sur... je sais qu'il y a des suivis sur yata.info.
Oui.
C'est très très médiatisé sur la Dépêche, sur tous les médias un peu.
Oui, c'est très médiatisé et on a ouvert aussi une page Facebook, c'est les sinistrés du 73 bis rue Bayard. Voilà, pour tenir les gens aussi au courant du mouvement, de ce qui se passe par la suite aussi.
Ok, d'accord. Est-ce que on veut rajouter quelque chose? Peut-être tu veux rajouter un truc ou toi.
Moi, ce que j'ai à rajouter, c'est juste que j'espère vraiment que la mairie va tenir ses promesses, parce qu'actuellement, on se retrouve vraiment sans rien, sans argent, c'est vraiment une galère totale. Après, moi, j'ai la chance d'être hébergé par, comme je dis, des amis à mes voisins, mais pour la plupart des autres personnes, c'est pas le cas. Actuellement, ils sont toujours dans ce stade. La mairie, on dit qu'ils allaient tenir leurs promesses, mais ces personnes-là peuvent rester, ça peut durer jusqu'à un mois encore. Un mois habiter dans un stade avec des enfants, il y a des personnes qui sont handicapées, il y a des personnes âgées. Après, j'espère vraiment qu'ils vont tenir leurs promesses et qu'ils vont vraiment se bouger pour qu'ils nous retrouvent déjà, premièrement, un logement déjà d'urgence et qu'ils nous débloquent aussi de l'alimentation, des produits d'hygiène aussi et un petit pécule pour se racheter des habits, se racheter toute une vie en fait, parce qu'on n'a plus rien.
Et voilà. Les 100 euros de Macron ne suffiront pas.
Voilà, et les 100 euros de Macron ne suffiront pas exactement. Il faudra beaucoup plus que ça.
Ok, du coup, on se tient au courant sur la suite. Est-ce qu'on a le temps d'écouter une petite musique qui, du coup, n'a rien à voir avec ce dont on vient de parler, mais plutôt dans la suite de ce dont on parlait sur le contrôle des chômeurs?
Oui, une track de l'improbable MC qui s'appelle Parasite.
Et après, on passera à l'agenda.
La vie c'est autre chose que de glander, de se lever quand on se réveille à 2h de l'après-midi parce qu'on a fait la brinque toute la nuit. Ça c'est la vie, autre chose, hein. Bon, mais rien, non, ça ne fait rien de ces journées. Et ça, je m'excuse du mot, mais véritablement, pour moi, vous êtes le genre de parasite de la société.
Il paraît que je suis qu'un parasite. Je viens dire ça en musique, un tic, ça qui kiffe ça. Vie grâce aux ascétiques. Ça a pas l'air dur, et pour être honnête, ce qui me fait vivre, c'est la diff entre ton salaire brut et ton net. Appelle-moi profiteur, feinteur, tout le temps en vacances, jamais en avant, je fais jamais d'heure, j'ai l'habitude et les centunes, je dirais pas jusqu'à aimer ça. J'ai eu la flemme pour les études, pourtant c'était intéressant pour travailler, peu d'ambition, rien qui pensait me stresse, hey, tant que je peux me débrouiller sans ces objectifs RSA. En entretien, mes frustrations se cristallisent, je suis sorti du système comme une dent qu'on dévitalise. Pourtant, j'avais la foi quand je me suis lancé dans la vie active, sous les ordres d'un chef, tout droit sorti de l'asile psychiatrique, payé au SMIC, à la base de la pyramide. Je me disais, y'a bien pire, je voulais pas finir comme ce vieillard triste. Mais je suis devenu le parasite. Monsieur le président veut lui sucrer les ascétiques. Il vit sur le dos de la bête, reçoit le RSA. Il ne fait que ramasser des miettes et se démerde avec ça. Parasite. Assisté, monsieur le président veut lui sucrer les ascétiques. Il vit sur le dos de la bête, reçoit le RSA. Il ne fait que ramasser des miettes et se démerde avec ça. Et mon appart n'est peut-être pas à la taille du tien. Avec 30 balles, une semaine je tiens chez toi. Ça paye même pas la graille du chien. L'argent on sait le faire, petit Nesby 6 mois de sursis, CDI, 40 piges ferme perso. J'ai su apprendre à faire sans et m'en passer une grosse pensée pour ceux qui ont des gosses et qui doivent s'entasser chaque jour dans le métro pour aller taffer. Et le pire c'est que le patron paye une misère, ce qui lui permet de s'enrichir dans le monde du travail. Dur d'aménager ta peine pour le peu qu'on y gagne. Tu peux qu'imaginer ta perte, faire la même chose chaque jour. Pour moi c'est ça l'enfer, le temps c'est de l'argent. Je disais ça, ouais, à l'ancienne, maintenant je vois l'argent comme du temps. Et j'en deviens radin, j'irai pas taffer demain à 6h du matin pour 7 euros de l'heure. Sans compter leur prime de risque, tu sors cassé, pas le temps de pioncer. Non, je refuse de suivre ce rythme.
Les abonnés. sur la touche. Aux dérives suicidaires qui pour y retourner sont prêts à tout ou pire. Lucifer, ceux qui dépriment devant le vide en solitaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je réponds de manière impassible. Choisis ce que tu préfères. J'agis comme bon me semble, parfois ça passe par l'assiette. Je vais mijoter un petit plat quand je me sens pas dans mon assiette. L'argent est nécessaire, mais c'est pas le plus attrayant. Il est impossible d'avoir ce que la vie offre de meilleur en le payant. Je veux voir ailleurs, je trouve plus mon bonheur dans les rayons. Je pars en stop à Barcelone, j'arrive à Prague en papillon. Tu vois un parasite? Moi je développe un coup de crayon. Je vais pas cacher une vie d'artiste à faire un taf qui m'abrutisse. Le rap, mon énergie, mais c'est pas lui qui me nourrit. Si tu le kiffes, rache le bif. Moi l'idée elle me fait sourire. Faut que je retourne devant le juge, il risque de détester ça. Toujours pas de taf, pas de thune, je m'en sors grâce au RSA. Parasite. Comme l'armée, je suis rien de plus qu'un réserviste. Y'a pas de place pour tous et c'est ce que tous tes experts disent. Arrête de croire que mon existence est magnifique ou que je te dois quoi que ce soit et de me voir comme un parasite. Tu crois que je profite du système? Je profite de ma vie, boucler chaque mois avec 400 balles. Est-ce que toi t'y arrives? Tu fous le double, rien que dans essence, alcool et clope. Moi j'ai 4 fois moins de troubles qu'un agent de chez France Télécom. Et même en menant cette vidange durant toute mon existence, j'atteins pas les sommes qui se blanchissent dans les constructions des résidents. Je cite monnaie de croix, bénédiction la présidence. Et plutôt eux, ce serait mieux qu'ils rendent un peu de monnaie, je crois. Les voleurs ne pointe pas au pôle emploi. En début de mois, ils sont dans la banque, pas au chômage. Dans ma chambre, sur mon plumard, tu me vois comme un galérien, un moins que rien. Mais j'ai vu la malédiction, j'ai échappé au salariat. Mais je suis devenu le parasite. Monsieur le président veut lui sucrer les ascétiques. Il vit sur le dos de la bête. Reçoit le RSA, il ne fait que ramasser des miettes et se démerde avec ça. Parasite. Assister, monsieur le président veut lui sucrer les ascétiques. Il vit sur le dos de la bête. Reçoit le RSA, il ne fait que ramasser des miettes et se démerde avec ça.
Le RSA, ça sert à ça.
Et juste, Jérémy avait un petit truc à rajouter quand même dans cette histoire, donc on te laisse terminer.
En fait, voilà, je voulais juste rajouter aussi qu'il y avait pas mal d'injustices, car en fait, j'ai un ami qui fait partie de l'association. Et en fait, la police en a profité pour arrêter des personnes alors qu'ils avaient failli mourir brûlés ou intoxiqués, en fait. La police en a profité pour arrêter quelques personnes. Ils les ont menottés, ils les ont ramenés au poste. On ne sait pas ce qui est devenu de ces personnes-là.
Donc juste après l'incendie, ils sont arrivés, ils ont chopé des mecs.
Voilà, juste après l'incendie, ils ont menotté des gens. Ils ont fini en garde à vue. On ne sait pas ce qui est devenu de ces personnes. Et j'ai un ami qui fait partie de l'association, en fait, qui a voulu s'opposer à ça entre les policiers, en fait. Et il est parti chez son docteur. Il a eu 3 côtes cassées. Et il y a un policier qui l'a frappé, en fait, qui lui a mis un coup de poing.
Ok. Voilà.
Pour dénoncer tout ça. Voilà.
La cerise sur le gâteau.
Voilà,
quoi.
Exactement.
Bah, merci en tout cas pour ton témoignage.
Je vous en prie, ce fut un plaisir. Merci.
Merci, bon courage.
Merci, au revoir. Ouais.
Salut.
À bientôt.
Et s'il nous reste 1 ou 2 minutes, on va peut-être faire un petit agenda.
Un gros agenda.
Et comme vous en doutez, un agenda très très jaune. Et
micro.
Notamment là tout de suite, dans 3 minutes à 18h, parce que je vous rappelle qu'on est en direct, il y a une action, il n'y a pas d'arrangement et gilet jaune, qui s'appelle Bienvenue Macron, et ça se passe à Esquirol.
Donc, dans 3 minutes.
Courez. ça continue ce soir avec une commission défense collective, commission action au Mix Art Miris, toujours gilet jaune. Et surtout demain, grand jour, car demain c'est la venue de
Macron,
de Monsieur Emmanuel Macron à Toulouse. Et c'est, ça tombe bien parce que c'est aussi une journée de grève à l'appel de Sud Solidaire. Et on vous donne donc rendez-vous à 14h au rond-point route de Seyss pour souhaiter bienvenue à Macron. Et puis à 20h30, il y aura une rencontre pour discuter autour des gilets jaunes. Qui sont-ils? Leur lien avec les médias et tout ça. Ça se passera à la Bourse du Travail.
Qui sont-ils vraiment?
Et puis vendredi à midi, il y aura une manif artistique contre les violences policières. Donc ça commence à François Verdier, donc à midi. Et puis samedi, c'est l'acte 10 des gilets jaunes. Rien à dire de plus. Et puis, mais aussi en parallèle. Faites attention à vous. Et puis de midi à 20h, au gros bâtiment du Quai Saint-Pierre, qui est un gros bâtiment occupé, il y aura donc la grande ouverture du Quai Saint-Pierre, avec plein d'ateliers. Il y aura du dessin, du foot, des projections, du cirque, des concerts, une cantine, et même un atelier psy. Voilà, ça se passe au 10 quai Saint-Pierre. Et puis après, il y a les rendez-vous qui commencent à devenir habituels. Hein, dimanche, à 11h, c'est la marche des femmes gilets jaunes, place Wilson. Il y a d'autres rendez-vous d'ailleurs qui sont un peu des rendez-vous habituels maintenant. Du lundi au vendredi, tous les jours à 18h, il y a un point tract et rencontre sous l'aile du marché Saint-Cyprien. Il y a aussi tous les jeudis, l'AG Centre-Ville, place du Ravelin. En fait, il y a beaucoup trop de choses. Il faut suivre les médias sociaux à un moment donné. Hein.
Ou alors, aller à tous les rendez-vous qui... indique le rendez-vous
exactement.
Suivant.
Exactement. Ouais, ouais, c'est pas mal aussi. Sinon, ouais.
Ou alors, choisir ses rendez-vous et dormir un peu parfois de temps en temps.
Ah oui.
Oui, faites attention à vous aussi, hein, à votre santé. Et du coup, et sinon, pour finir, avec deux rendez-vous de grève, mardi 22, il y a un appel de soutien à la grève au CHU de Toulouse. Si vous voulez savoir pourquoi le CHU est en grève, je vous invite à écouter l'émission précédente de Radio Radier.
Malox et Tranxen.
Et jeudi 24, c'est une journée de grève dans l'éducation. Contre les réformes Blanquer. Voilà.
Ouais.
Amusez-vous bien.
Un programme bien chargé.
Et c'est un peu tard pour s'actualiser, sinon. Je crois qu'on peut encore le faire aujourd'hui.
On est combien? Ah ben non, on est le 16. Vous aviez jusqu'à okay. Hier. C'est pas grave.
On se sent un peu coupable là. Bisous.
Bisous les radiers.
Au mois prochain.
Salut.